poser toutes sortes de questions, c'est ouvert, il n'y a pas de directive particulière, ni de direction particulière au départ. Voilà.
Qui va être le premier ?
Voilà, c'est en général la difficulté, mais bon.
Oui. Moi, j'ai des petits problèmes de mémoire et j'avais eu un problème entre résister et
désobéir.
Ouais. Je pense qu'en fait, il y a une confusion qui est normale. Il me semble qu'on peut résister par le rire comme on peut désobéir par le rire.
Oui, je crois que... Alors, déjà, les définitions ont une part de subjectivité. Il y a des définitions de dictionnaire et puis ensuite, il y a comment les gens s'approprient les mots. Et les usages qu'ils en font. Moi, je considère que résister est le terme le plus large. Donc, résister, c'est s'opposer, c'est essayer d'empêcher quelque chose qui nous déplaît. Et que là-dedans, il y a plusieurs outils, plusieurs façons de résister. On peut résister déjà dans sa tête, tout simplement. Et on peut également désobéir collectivement à la loi quand celle-ci est problématique, et y compris par l'humour. Voilà. Et on peut aussi résister avec les armes à la main, et on peut aussi... il y a de multiples façons de résister. Après, à chacun de voir celle qui lui correspond, qui lui semble juste, moralement défendable.
Je pense que ça va dans le même sens, sans dire qu'on est contre la violence.
Dans la résistance, il n'y a pas forcément la notion de non-violence. Dans la désobéissance civile, oui, puisque c'est l'adjectif civil, effectivement. Même si le paradoxe, c'est que l'histoire de la désobéissance civile... Alors, pour faire vite, elle commence avec Étienne de la Boétie, qui à 18 ans, au XVIe siècle en France, dit d'abord que le tyran, s'il arrive à nous tyranniser, c'est pas seulement parce qu'il a des soldats, parce que de toute évidence, il n'a pas assez de soldats pour nous contenir tous. Nous n'avons pas un fusil derrière la tempe, tous. Donc, si le tyran arrive à nous tyranniser, c'est probablement aussi parce que nous le laissons faire, voire... parce que nous l'aidons à le faire, nous l'aidons à nous opprimer, parce que nous payons nos impôts, parce que nous obéissons à ses lois, même quand il n'y a pas de gendarmes en vue, etc., etc. Par lâcheté, par confort, par plein de raisons. La deuxième étape intellectuelle de la désobéissance civile, c'est Thoreau, l'Américain, qui, au XIXe siècle, dit « La place de l'homme juste dans une société injuste, c'est la prison ». On ne doit pas coopérer, on ne doit pas collaborer avec l'injustice. Et lui commence directement à refuser de payer ses impôts pendant 6 ans, jusqu'à ce qu'on l'arrête, parce qu'il s'oppose au financement par ses impôts de la guerre d'agression contre le Mexique, qui va se traduire, comme vous le savez, par le dépeçage du Mexique. La moitié du Mexique va devenir américain, et elle l'est toujours. Il va également s'opposer à l'esclavage, en aidant des esclaves en fuite à s'organiser pour passer au nord et à organiser la lutte armée. Parce que Thoreau n'est pas encore dans la non-violence. On est au tout début de l'histoire de la démocratie, l'histoire de l'opinion publique, l'histoire de la souveraineté populaire. Tout ça est très nouveau et l'idée que l'on peut se battre autrement que par la violence, elle est neuve. Donc elle n'est pas encore clairement dans la tête de Thoreau, même si lui, de fait, est non-violent. Thoreau, il est lu par Tolstoï, anarchiste et chrétien, un paradoxe, et aristocrate, bien sûr. Tolstoï qui va lire Thoreau, qui va ajouter de la non-violence au nom de son christianisme, au nom de son engagement religieux, mais qui n'est pas encore dans l'organisation collective de l'action, pas davantage que Thoreau. Et c'est Gandhi qui va lire Tolstoï et du coup découvrir Thoreau et qui va ajouter 2 étapes importantes, l'organisation collective de la désobéissance. Thoreau avait désobéi tout seul, Tolstoï était encore dans l'idée de désobéir tout seul. D'ailleurs, lui va vendre ses terres, libérer ses serfs et se séparer de ses biens. C'est un peu un décroissant avant l'heure, d'ailleurs Thoreau aussi. Gandhi va aussi ajouter la non-violence au cœur de la désobéissance civile, en disant nous luttons contre la violence, nous luttons contre de multiples formes de violence qui nous sont faites. Il serait absurde, il serait contradictoire d'ajouter de la violence. La fin est dans les moyens. C'est pas la fin qui justifie les moyens, c'est la fin est dans les moyens. Ça veut dire que si j'utilise des moyens injustes, je ne peux que produire plus d'injustice. Ça, c'est Gandhi qui amène vraiment ça. Voilà. Oui.
Comment vous vous positionnez par rapport aux partis politiques et comment vous vous gardez à droite et vous vous gardez à gauche, en face et derrière?
Alors, moi, j'ai la faiblesse de croire que si les élections pouvaient changer les choses, elles seraient interdites. Je pense néanmoins que le jour des élections, il n'y a pas mieux à faire que de voter. Mais la veille et le lendemain, il y a plein d'autres choses à faire que d'attendre le jour ou de l'élection. Voilà. Le jour de l'élection, je fais du damage control. J'essaie de limiter les dégâts. Voilà, parce que j'en suis là. J'en suis plus à espérer grand-chose, mais à essayer de limiter le pire qui est toujours à craindre et qui attend derrière la porte pour prendre sa revanche historique, je crois. Donc celui-là, j'ai envie de l'éviter. Ceux qui monopolisent le pouvoir et servent l'oligarchie financière, j'ai aussi envie de les éviter. Donc je fais ce que je peux, mais je n'y crois pas. Je considère donc que la politique, c'est à nous de la faire tous les jours. Et que ça se construit collectivement dans la résistance, plutôt que dans la définition de projet utopique, si vous voulez. J'ai évidemment mon idéologie, ma vision du monde, mes rêves, mais contrairement à beaucoup d'autres organisations, les désobéissants, on a choisi non pas d'essayer de dire « nous on est pour ça, et si vous êtes pour, vous venez avec nous, si vous êtes contre, on va essayer de vous convaincre », non. On est plutôt dans le fait que nous sommes tous différents, mais nous avons des valeurs en commun et des adversaires en commun. Et on estime que quand le rouleau compresseur arrive et qu'on est dos au mur face au rouleau compresseur, c'est pas le moment de discuter de la virgule dans les tracts. C'est pas le moment de se dire est-ce qu'il faut voter, est-ce qu'il faut pas voter, est-ce que toi t'es écolo, toi t'es anard, toi t'es rouge, toi t'es vert. On a les mêmes valeurs, en gros, on est contre la logique du profit, la logique de la domination. Et on va se faire écraser. Alors il est temps peut-être de se défendre collectivement. Et de ces pratiques de résistance, nous faisons le pari que vont naître des visions communes. Parce que moi, je peux refaire le monde dans ma chambre, comme on l'a tous fait. J'ai aucune légitimité à dire que c'est moi qui ai raison plutôt que vous, plutôt que vous, plutôt que vous. Or, les humains passent leur temps à faire ça, à imaginer un truc dans leur tête et à essayer de convaincre l'autre que c'est eux qui ont raison. Alors qu'on parle d'un avenir qui est fantasmagorique à ce stade-là. Donc nous, on considère plutôt que c'est dans l'action qu'on va vérifier ce qui est vrai, ce qui marche et ce qui est possible. Par exemple, quand on va s'opposer à un G8, la réunion des maîtres du monde, il va y avoir peut-être des milliers de personnes qui vont venir. Comment on fait pour s'organiser avec des milliers de personnes qui arrivent les deux semaines avant avant l'événement, qui vont organiser des actions? Mais ils vont aussi aller aux toilettes, dormir, manger, parler, décider. Comment on fait ça? Eh bien, on fait un village. On va se poser donc des questions d'énergie. Comment on fait pour l'électricité? Ben, on va faire des petites éoliennes, on va mettre des trucs à pédales. Comment on fait pour la nourriture? Est-ce qu'on la paye? Ben oui, mais il y a des gens qui n'ont pas d'argent, alors comment on fait? Et on va aller chercher de la nourriture dans les poubelles des supermarchés quand elles sont encore emballées et en parfait état, et puisqu'il faut bien détruire pour que les prix ne baissent pas, hein, vous savez, c'est le capitalisme. Et donc, on va inventer tous ces moyens-là, et là, ça ne va pas être nos utopies. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire « Non, moi, je suis contre ça par principe. » Ben d'accord, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Et ensemble, on va décider de solutions qui marchent. Parce qu'on va avoir des 5000 personnes à Strasbourg qui vont, pendant une semaine, 15 jours, vivre ensemble, décider ensemble. Comment on décide à 5000 sans que des gens soient écartés, sans que des chefs n'imposent leur point de vue? Et ben tout ça, cette démocratie directe, cette autogestion, ça marche, mais ça s'invente au fur et à mesure. Donc, c'est plutôt ça notre utopie. Plutôt que des fantasmes, qu'on a quand même, hein. Je ne suis pas anti-intellectuel, je lis les livres, je pense, mais plutôt que d'essayer de me battre dans pour que les gens mettent la virgule au même endroit dans le tract, je me dis, on va d'abord lutter, et dans la lutte, construire du commun. Il y a beaucoup de gens qui vont discuter pendant des jours, avec les gens les plus proches d'eux, en les traitant quasiment comme les pires ennemis, pour ne jamais aller sur le terrain se battre. Et pendant ce temps-là, ben, on nous coupe les forêts, on nous pille nos richesses, on nous vend des armes au tiers-monde, on nous... Bon, donc... Un ange passe.
Un ange passe,
hein.
Oui.
Toi qui fais des stages et des soutiens pour des collectifs qui sont en train de faire quelque chose de concret, mm-hmm. est-ce que tu as déjà eu du contact avec des nouveaux collectifs pour l'audit de la dette? Est-ce que tu as déjà des idées développées dans ce sens-là? Pratique.
Alors des contacts, enfin, je suis ce que fait en gros ATTAC et le CADTM et les gens qui se sont qui gravitent autour de ces organisations sur la question d'un audit citoyen de la dette, sur la question du concept de dette odieuse ou de dette illégitime qu'a conceptualisé le CADTM, le Comité pour l'abolition de la dette du tiers-monde, qui désormais s'intéresse à la dette des pays riches. Et je n'ai pas été sollicité, et le collectif des désobéissants n'a pas été sollicité pour mener des actions concrètes à l'instant d'aujourd'hui, enfin au jour d'aujourd'hui. On a suivi ce qui s'est fait à Paris, qui a été un gros succès. Ils ont refusé des gens tellement les gens se sont précipités pour vraiment comprendre. Il y avait un week-end entier sur la dette. On a des amis qui étaient là-bas, on avait un stand là-bas. Moi, je n'y étais malheureusement pas personnellement, j'étais sur un stage, comme presque tous les week-ends, mais... on suit ce qui se fait avec ATTAC, le CADTM et quelques autres. On avait réfléchi à des actions contre la finance, de manière générale, contre l'oligarchie financière. On en a mené au siècle, là où l'oligarchie financière, politique et médiatique se réunit chaque mois. Je ne sais pas si ça vous parle, le siècle. Non. C'est un club. Vous savez, il suffit de lire les... Il y a deux sociologues super intéressants, les Pinson-Charlot, qui travaillent sur la sociologie des riches. Les ghettos du Gotha, le président des riches, ils analysent les façons qu'ont les personnes les plus riches. Hein, on parle de 2% de la population, on ne parle pas des gens qui gagnent 3 000, 4 000 euros, mais de gens qui gagnent vraiment des fortunes. Ces gens-là, ce que les Pinson-Charlot constatent, c'est que leur supériorité, ce n'est pas forcément leur argent, c'est leur capacité à se défendre pour leurs intérêts, à se battre pour leurs intérêts, à les imposer. Et notamment parce qu'ils se voient régulièrement, ils discutent et ils s'organisent. Ce que nous faisons, mais plus mal, ou en nous divisant, ou pas assez. Bon. Ils ont des lieux à eux, les ghettos du Gotha, où on ne va que si on est coopté. Et l'un de ces lieux emblématiques, c'est le siècle, qui en fait est une association de riches, donc, dont la seule vocation est d'organiser un dîner une fois par mois. L'Automobile Club de Paris. Alors, ce que je croyais naïvement, c'était que l'Automobile Club de Paris, c'était pour les amateurs de bagnoles. Eh ben non, c'était pour les industriels qui fabriquaient les voitures, ce qui fait nettement moins de monde, hein, et pas exactement dans les mêmes... avec les poches aussi vides que les premiers. En tout cas, ce bâtiment Place de la Concorde a un restaurant et accueille ce dîner du siècle une fois par mois, où se réunissent les gens les plus puissants de France, industriels, politiques ou médiatiques. Donc, vous avez évidemment les gens des partis de gouvernement, hein, ceux qui... Bon, comment ?
Vous avez les autres aussi.
Et vous avez les des autres partis... Peut-être qu'Olivier Besancenot me vient mettre des lettres à la boîte aux lettres, mais...
Comme il y avait un article dans Le Monde il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Il y a quand même des gens de... qui ont été ministres de gauche et qui vont...
Oui, mais c'est cela que je... Enfin, de la gauche de droite, vous voulez dire.
Oui, sans doute, mais bon...
En fait, il n'y a pas le Vert, il n'y a pas le PG, il n'y a pas le NPA.
Nous sommes bien d'accord.
Pour vous mettre les choses claires. Sinon, il y a effectivement... il y a aussi donc les grands journalistes, ceux qui n'ont pas la carte de journaliste, qui sont très bien payés et qui sont à la télé tout le temps, et puis, ou à la tête des journaux, et puis il y a les industriels qui dirigent en fait vraiment les banquiers, les choses comme ça. Et donc c'est intéressant parce que c'est l'endroit de la collusion physique. Ces gens-là n'ont évidemment pas besoin que de se rencontrer pour faire des choses ensemble, mais c'est vraiment là le cœur de leur socialisation, sociabilité. Et c'est bien sûr interdit à la transparence, il n'y a pas de truc. Et tout l'enjeu est de savoir à l'avance qui va manger à côté de qui. Puisque le président du siècle, c'était Denis Kessler, hein, l'ancien maoïste qui est devenu vice-président du MEDEF pendant quelques années. Il était le président du club du siècle jusqu'à il y a peu. Et la tâche principale de cette association était de faire manger les gens les uns à côté des autres pour qu'ils puissent... faire converger les intérêts de cette classe sociale si particulière qu'est la grande bourgeoisie. Et donc on a fait des actions là, Dominique Strauss-Kahn en étant un des membres privilégiés, même s'il se fait rare en ce moment, on est allé rappeler que DSK n'était pas célèbre que pour son rapport particulier aux femmes, mais aussi pour sa propension à servir l'oligarchie financière au FMI et ailleurs. Bon. Et puis on a fait des actions contre les banques aussi, puisque les banques blanchissent l'argent. Vous savez que 8% de l'argent mondial, c'est l'argent noir qui est donc blanchi dans les banques, les paradis fiscaux des grandes puissances, etc. Et donc on est allé nettoyer des banques à Bayonne, à Paris, à Marseille. On a fait des... En fait, on nettoie la banque à l'intérieur, comme ça, avec pour expliquer qu'elle est... Alors pas encore au Karcher, on aurait pu le faire. Le Karcher, non, c'est pour les pauvres. Hein. Non, les riches, c'est plus... Bon, mais enfin, voilà, on les nettoie pour les... Ça provoque généralement la fermeture de l'agence, ça fait un peu d'image négative pour les banques. Bon, j'imagine qu'ici, tout le monde est à la nef, hein, la seule banque coopérative, non spéculative, qui donc ne finance ni désastres environnementaux, ni désastres sociaux. NF, NEF. La seule banque populaire. La vraie. Voilà. Mais donc sur la dette, encore rien de concret, c'est tout nouveau aussi l'audit citoyen. Donc peut-être que quand cet audit citoyen aura confirmé ce que nous savons tous, à savoir que cette dette est illégitime, que c'est un vol en fait de la ressource publique, eh bien, puisque vous le savez, hein, c'est la banque centrale prête aux banques et puis après emprunte aux banques privées l'argent qu'elle leur a prêté juste avant. Donc on est dans le monde à l'envers et du coup, notre argent finance les banques privées. Quand on aura montré ça de manière technique, il faudra probablement des actions un peu embêtantes pour que l'adversaire soit obligé de s'expliquer, voire de... changer un petit peu ou que l'indignation générale progresse, hein, ce genre de choses.
On pourrait peut-être avoir une action alors où les hommes baissent leurs pantalons plutôt que les femmes montent leurs seins pour se moquer de ce monde machiste.
Des actions nues, il y en a eu avec des hommes aussi, bien sûr. Alors, il y a évidemment les actions des homos qui aussi ont un rapport au corps. Centrale dans leur réflexion sur leurs conditions. Et puis, il y a aussi les écolos qui luttent pour les moyens de circulation doux, notamment le vélo, qui organisent des vélorussions, comme vous le savez, mais aussi des cyclonudistes, une fois par an, dans plein de villes de France, où on se met nu ou quasi nu sur les vélos pour montrer la vulnérabilité face aux voitures. Et comme souvent, c'est interdit. Là, c'est mixte, effectivement. Dans des actions seulement les hommes nus, je crois qu'on l'a vu dans Full Monty, mais... Mais si vous voulez, je peux voir avec des militants si vous voulez. Un show. Oui. Il y a un volontaire là, monsieur, non? C'est fait? Ouais. C'était sur quel le naturisme peut-être, non? Ou...
Non, une affiche qui avait été collée près d'une librairie.
Une affiche qui avait été collée près d'une librairie.
Une affiche, de site porno.
Et, ouais.
Oui. En son plein centre-ville. Et bon, c'est vrai qu'à l'époque, je n'étais pas habillé comme je le suis actuellement. Donc j'avais cousu tous mes vêtements un par un.
Ouais.
Et tous. Et oui. Oui, les affiches donc de ces sites porno me dérangent
ouais.
Pas trop, oui, quand ils sont à l'extérieur de la ville ou dans là où circulent les voitures. Donc, généralement, il y a les parents qui sont devant et qui gèrent la chose, quoi. Bon, on regarde ce qu'il y a d'intérêt à regarder, mais on n'est pas obligé de regarder les affiches en question. Par contre, dans le centre-ville, les enfants rentrent chez eux et passe pratiquement seul devant, donc sont quand même assez... non pas avoir ça, enfin, je ne pense pas vraiment, style... enfin, ouais. Et donc, je m'amusais à décoller l'affiche, tout simplement, et le libraire est sorti de son magasin et m'a regardé comme si je retirais de sa pub, peut-être pour des journaux qu'il doit vendre. Et je me suis retourné, j'ai délacé ce qui me tenait pour cacher mon sexe. Et je lui ai fait face et je lui ai dit, si tu veux voir du nu, tu envoies là maintenant.
Et bon. Eh ben voilà.
Un copain sans papier qui habitait chez moi est passé derrière et m'a vu en train de faire la chose. Il m'a dit, enfin, il s'est marré. Et je lui dis, bon, reste pas dans le coin parce que je pense que la police va bientôt arriver. Et bon, maintenant il a ses papiers, il travaille. Et, mais bon, ça marche bien pour lui.
Et ben voilà, voilà un bon exemple. J'en connais une autre.
Il y a cet exemple-là, ouais. Manque de bol, oui, n'a pas dépassé les trois derniers.
Ah, pardon. Bah, en gros, monsieur, pour protester contre une affiche sur un site porno qui était en plein centre-ville et qui était donc évidemment très suggestive, avait commencé à arracher la pub. Le kiosquier sur la devanture de laquelle duquel il y avait cette affiche est venu pour le prendre à partie, pour défendre l'affiche. Et du coup, il s'est dessapé en disant, si tu veux voir du nu, en voilà, il n'y a pas besoin d'affiche, en gros. Voilà. Et donc, c'est assez efficace. Il y a une autre action aussi dans le genre. À un moment, il y a une campagne pour McDonald's de publicité qui disait, venez comme vous êtes. Et il y a un type, bon, c'est plutôt un canular, mais il a dit, bah, il est venu à poil, mais vraiment à poil, dans un McDo, commander son truc et il a expliqué que lui, quand il avait vu l'affiche, il était à poil. Donc, il est venu à poil. Et alors, ce qui est drôle, c'est que, donc, en fait, il y a un photographe qui le prend en photo discrètement. Et dans le reportage qu'il fait, il dit, en fait, tout le monde a fait semblant de ne pas voir que j'étais nu. J'ai pu faire la queue, j'ai été servi, je suis allé m'asseoir. Tout le monde a fait... voilà. Bon. Seulement, à la toute fin, il y a des gens qui lui ont... Enfin, des employés qui lui ont dit si vous pouviez manger un peu plus vite.
Voilà. Il faut
bien m'assurer. Alors, d'autres propositions, les hommes nus et... Si, il y a l'organisation PETA aussi, une organisation internationale pour le traitement éthique des animaux, qui... mais c'est pas que les hommes, pour le coup, qui utilisent le corps humain, enfin la nudité homme-femme, pour dénoncer ce que l'on fait aux animaux, notamment l'exploitation de leur fourrure, et donc régulièrement, ou même la viande industrielle, des choses comme ça. Et donc ils se mettent en... Bah, c'est un peu trash, hein. Ils se mettent nus avec un peu de sang dans des sacs plastiques congelés, comme de la viande, comme de la barbac. Ou alors dans des, je crois qu'on le voyait à l'écran sur une de mes diapos, dans des cercueils. Ça, j'avais été à cette action. Ils s'étaient mis nus dans des cercueils devant Burberry's, un magasin Burberry's parisien, où on s'était remis à vendre des manteaux de fourrure coûteux. Et voilà, ils font régulièrement ce genre de choses. Mais c'est mixte, effectivement.
C'est le machisme que je voulais dénoncer.
Oui, j'ai bien compris. Ouais.
Sur tous ces types d'actions, là, j'imagine que derrière, il va y avoir des conséquences, des représailles.
Comment on gère
les procès, ouais. Voilà. Comment est-ce que vous gérez ça en amont,
Alors, le paradoxe, c'est qu'en fait, les conséquences de ce type problématique, c'est la minorité. Dans la majeure partie des cas, il n'y a aucune conséquence négative. Parce que l'adversaire n'a aucun intérêt à nous faire le cadeau d'un procès, de la publicité qui va avec, d'obliger un juge à décider si peut-être c'est nous qui avons raison, de voir des élus choisir leur camp, obligés de se mouiller, est-ce que c'est eux qui ont raison, est-ce qu'il faut... Bon, et puis plein de gens nous envoyer des sous pour payer les avocats, enfin bref, ça peut leur retomber facilement dans la figure. Donc ils se contentent de nous laisser faire, bien souvent, ou nous jeter un peu plus vigoureusement dehors, mais de ne pas nous poursuivre. Parfois, enfin, de manière générale, dans la désobéissance civile, c'est ça le... Alors, bien sûr, il y a des luttes spécifiques, genre les faucheurs volontaires, où là, on est un peu plus poursuivi que dans d'autres cas. Mais globalement, on est quand même très largement épargné, en France, par la répression, parce que nos adversaires doivent encore faire semblant d'être démocrates. Et que ça nous laisse une marge de manœuvre importante. Parce que nous visons là où ça fait mal, là où ils sont en contradiction avec leur discours, là où ils mentent, là où ils trichent, là où ils font du mal. Donc, nous faire le cadeau de la répression, Nous, on veut souvent, hein, on a fait beaucoup d'actions contre le missile M51, le renouvellement de notre arsenal nucléaire militaire, on voulait être arrêté, on l'était à chaque fois, mais on voulait être poursuivi plutôt, et ils nous ont risqué la prison, tout ça, mais on voulait ça. Ils l'ont pas fait. Alors, quand il y a des suites, ma foi, est-ce que d'ailleurs, sur les actions humoristiques, parce que même les Yes Men qui ont coûté beaucoup de sous à leurs adversaires, ils ont été menacés de poursuite et puis au final elles n'ont pas eu lieu. Qu'est-ce que je vous ai montré d'autre? Je vous en ai montré tellement.
Les antipubes, il y a un procès.
Les antipubes, il y a un procès sur 4 actions peut-être. Il y en a un à Tours là bientôt avec les copains, mais bon, il y en a de temps en temps. Ça, c'est. Il faut dire qu'ils le veulent, le procès. Quand ils barbouillent le panneau, c'est pas pour barbouiller le panneau, c'est pour avoir un procès. Et que bien souvent, ils n'en ont pas. Le premier collectif parisien, ils ont attendu leur 6e action à raison d'une par mois, donc 6 mois, pour avoir le premier procès. C'est eux qui appelaient la police. « Venez nous arrêter, on vient de faire un délit, venez !» Bon. Et quand la police les emmenait, elle les libérait au bout d'un moment, il n'y avait pas forcément de poursuite derrière. Donc, quand il y en a, on saisit l'occasion, et ma foi, le risque est faible. C'est un risque calculé. La désobéissance civile, ce n'est pas des fous qui font ça. Ça peut vous paraître étonnant ou spectaculaire, mais tout ça est calculé. Personne n'y va en aveugle. Donc, on prend un avis juridique, on sait ce qu'on risque. Si on risque 500 euros d'amende, ma foi, on fait un petit concert, un repas solidaire, on a les 500 euros en caisse, on peut aller tranquillement désobéir à la loi. Quand on risque 3000 euros, bah, pareil, on s'organise avant, après, on fait l'appel à la solidarité, etc. Donc la plupart du temps, le risque est faible, et quand on a un procès, souvent c'est parce qu'on le voulait, on a fait ce qu'il fallait pour, et il arrive qu'on gagne. Dans les antipubes, on a fait des sacrées avancées, puisqu'il y a de plus en plus de juges qui reconnaissent que barbouiller un panneau publicitaire, c'est de la légitime réponse. La légitime réponse à une intrusion publicitaire qui se traduit par un tiers des panneaux publicitaires sur la voie publique qui sont illégaux, que l'on pourrait théoriquement faire retirer en faisant un procès. Il y a Paysages de France qui s'est spécialisé dans les procès contre les panneaux illégaux, sauf que un procès contre un panneau, c'est 6 mois de procédure. Au bout de 6 mois, vous gagnez, et pendant les 6 mois, ils en ont mis 10. Vous en faites enlever un, ils en rajoutent 10. Donc les antipubes disent, on a essayé les procès, ça ne suffit pas, on passe à l'action, et de plus en plus de juges leur reconnaissent justice. Pareil sur le refus de prélèvement ADN, ça je ne l'ai pas montré, mais on est un certain nombre à avoir refusé de donner notre ADN, puisqu'on vous le demande maintenant quand vous passez en garde à vue ou quand vous êtes condamné, quels que soient les faits. Enfin, quels que soient les faits, il n'y a qu'un type de délit qui maintenant vous fait éviter le prélèvement ADN, c'est les délits financiers. Les seuls qui sont pas... Je sais pas pourquoi. Hein. Peut-être parce qu'on les connaît déjà tous, les auteurs. Je sais pas. Mais...
Ils perdent peut-être pas d'ADN.
Peut-être.
Ils y mettent pas.
Peut-être. Si ils ont déjà vendu leur ADN et leur âme en même temps.
Ils le manient.
Ouais. Avec des gants. En tout cas, là aussi, le risque n'est pas très gros financièrement, et surtout, on est de plus en plus en train de gagner. Il y a de plus en plus de juges qui reconnaissent que le fichier biologique de la population, il y a un Français sur 50 aujourd'hui qui est dans leur fichier ADN, il est totalitaire, en fait, par essence. Bon, voilà.
De toute façon, s'ils veulent faire un fichier ADN total... Avec tous les contrôles Alcotex qu'ils font actuellement, ils ont tous les ADN qu'ils veulent.
C'est plus compliqué parce que...
Oui, non, mais
oui, en théorie, les ADN, on les ramasse partout. Mais il faut savoir à qui, il faut que la personne, elle atteste que vous ne faites jamais avoir au bluff. La police vous offre un verre, super. Voilà, après, ils vous demandent l'ADN, vous dites non. Et un verre, ce n'est pas un verre d'alcool, c'est interdit les bars dans les commissariats depuis 1980. Avant, c'était autorisé. Maintenant, ils planquent les bières sous le bureau. Mais en tout cas, ils vous offrent un café, un geste d'humanité, on boit le café. Puis juste après, ils vous disent, bon, on va prendre votre ADN. Non. Oh, alors, voyons, on sait bien, il est sur votre verre, donc ne vous y opposez pas. Oui, mais il est sur mon verre. Moi, je le sais, toi, tu le sais, mais personne d'autre ne le sait. Je ne vais pas signer ton papier reconnaissant que c'est le mien qui est sur le verre. Donc, ça n'a pas de valeur. On ne peut pas vous le prendre à votre insu, sauf dans l'antiterrorisme, où là, ils s'affranchissent de beaucoup de règles. Mais dans nos actions, on n'est pas encore qualifié de terroriste, donc, contrairement aux États-Unis, mais donc, ils ne peuvent pas nous le prendre au bluff, comme ça. Il faut qu'on accepte qu'ils nous le prennent et qu'on le signe. Voilà. je ne sais plus pourquoi je voudrais regarder ça.
C'est moi, ça,
oui. Oui. Comment ? Pardon ?
Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'avait fait Coluche en 81 au moment de la campagne ?
C'était super, c'était super. C'était super. Si vous parlez de sa candidature, parce qu'il avait fait aussi son mariage homosexuel, qui était aussi assez chouette avec le Luron, mais qui était, je pense, la même année ou juste avant, ou juste après. En tout cas, se présenter aux élections, c'était une très bonne. Enfin, c'était très intéressant politiquement, le message était fort. Il a à un moment eu le rôle de l'outsider, un petit peu comme José Bové a fait craindre à un moment d'être ça aussi, finalement ça fait flop, et pour ce qui est de Coluche, ils ont réussi à lui faire peur, à le dissuader. Après, s'il avait été élu, je ne sais pas ce que ça aurait donné, parce que Coluche n'était pas d'une cohérence idéologique à tout craint. J'ai revu l'heure de vérité de Coluche, j'avais pas retenu ça, parce que j'étais petit évidemment, mais j'étais fan. Je l'ai revu adulte, il y a des trucs, je n'assumerai pas ce qu'il dit, mais bon, il donnait un coup de pied dans la fourmilière qui était chouette. Après, encore une fois, je pense que si les élections pouvaient changer les choses, voilà.
Il a toujours dit que c'était pour rigoler.
Oui, mais à un moment, il y a cru, et on voulait qu'il y croie, et des gens avaient envie, et il y a eu ça, et puis en même temps, il a eu des petites menaces, des petites intimidations, des petites... Bon, puis voilà, après, il a lâché.
Tu sais, quand t'as ton secrétaire qui se fait refroidir...
Oui, alors, je sais pas, après, il y a des théories du complot, mais en tout cas, ils lui ont mis la pression.
Tu dis que ça n'a pas de conséquences au niveau des tribunaux. Ça n'a pas de conséquences peut-être au niveau de ton droit civique, quoi. Mais après, d'entraînant, on est quelques-uns dans la salle à avoir participé à des actions comme ça, t'es quand même confronté à la violence, quoi.
Ouais.
La question, c'est quand... moi, ça m'insupporte beaucoup, la violence. Donc j'ai peur, d'abord j'ai peur, quand je suis sur ce type d'action. Et comment on réussit à surmonter cette peur-là, et comment on supporte la violence d'en face, quoi. Et comment on peut continuer comme ça, quoi. C'est ça un peu dur.
Bon, je donne quelques pistes là-dedans. L'empathie, le jeu, en tout cas l'idée de penser qu'on est comme dans un jeu, chacun joue un rôle social qui nous a fait adversaire d'une société qu'on n'a pas choisie, qui était là quand on est né, qui nous fait adversaire, mais on est en dernier ressort des humains. Et si la société a fait l'un bourreau, l'autre victime, ou l'un ceci, l'autre cela, c'est pas pour autant que je dois prendre au sérieux cet aspect-là. Je suis là pour gagner, ok, il y a de l'injustice, de la souffrance, parfois l'adversaire il est violent, et si déjà on est dans cet état d'esprit, ça réduit sa propension à être violent. Ça l'élimine pas, mais ça la réduit. Donc nous, on s'en sort plutôt bien. Même si il arrive que nous ayons peur, même s'il arrive que nous soyons menacés, qu'on exerce des pressions, voire des intimidations sur nous, des menaces de mort, enfin des trucs comme ça, mais c'est plutôt l'exception que la règle. La plupart du temps, il y a parfois des tensions, l'espace d'un instant. Dans nos stages, on montre que le moment le plus risqué, c'est juste les premières minutes de votre action, quand votre action, votre intrusion, votre impertinence fait monter les émotions chez l'adversaire. Quand il est la proie des émotions, il peut faire des bêtises. Si vous arrivez, il y a des techniques pour ça, à faire retomber l'émotion, à revenir à une relation froide, entre guillemets, alors déjà le risque de violence est infiniment plus faible. Au moins dans tout un tas d'actions qui se font une fois, deux fois, des choses comme ça. Dans une bataille plus longue, avec des enjeux importants, on peut retrouver une violence froide cette fois. Celle-là, c'est la plus dangereuse. Quand l'adversaire décide froidement d'être violent avec vous. Ça, je l'ai eu sur l'entreprise. On a suivi pendant un mois et demi des grévistes de l'entreprise Numéricable, qui fournit de l'Internet et du je sais pas quoi, tout un tas de trucs, et qui continue de vous envoyer des factures quand vous l'avez quitté. Ils essayaient de se débarrasser d'une partie de leurs salariés sans faire de plan social, donc sans donner de droits d'indemnité et de formation aux gens qui viraient. Donc comment ils les viraient? Ils les harcelaient, ils leur prêtaient des fautes qu'ils n'avaient pas fait, tout un tas de choses. Ils essayaient de les dégoûter, tout ça. À un moment, ils se sont mis en grève et ils ont fait un mois et demi de grève, ça n'a servi à rien. Ils étaient pas majoritaires, ils étaient devant le siège et ils se pelaient devant le... sans être écoutés. Et puis à un moment, ils ont fait appel à nous et on a... fait la réflexion stratégique, puis on a visé là où ça fait mal. Donc on a bloqué le service financier de l'entreprise pour qu'il n'y ait plus de chèques qui rentrent, et puis on a pourri l'image de l'entreprise sur Internet. Du coup, ils ont payé des communicants de crise pour faire le travail inverse. Bref, il y a eu une montée comme ça. Alors ils ont multiplié les vigiles, ils ont d'abord fait appel à des vigiles plus nombreux, puis ensuite ils ont embauché des vigiles non officiels qui n'avaient pas d'entreprise, qui avaient une formation de mercenaires en Afrique, enfin des gens plus musclés, plus dangereux, qui commençaient eux à vouloir nous prendre dans les coins, à vouloir nous faire comprendre qu'à un moment on aurait au moins les jambes cassées et peut-être après on serait mort. Donc ça devenait quand même un niveau de tension un peu plus important. À un moment, ils ont même le grand patron, en s'enfuyant du siège de Numéricable, il s'est enfui en se mettant sur la banquette arrière d'une voiture conduite par un collaborateur. Il croyait qu'on ne l'avait pas vu. Il a roulé sur le parking. Les grévistes se sont mis devant lui. La voiture s'est arrêtée. Les grévistes ont tapé au carreau pour provoquer enfin une rencontre avec le grand patron de Numéricable, ce qui nous était refusé depuis le début. Et là, la voiture a redémarré et a écrasé la jambe d'un des grévistes qui a perdu sa jambe. Donc on est toujours en procès sur cette histoire. Mais vous voyez, c'est allé très loin. C'est assez exceptionnel. Hein. Je refroidis, mais c'est la plupart des trucs là, il s'est rien passé de tel. Mais c'était assez exceptionnel parce qu'on était vraiment, vraiment embêtant. On est même allé voir l'actionnaire principal de Numéricable, qui est le fonds de pension américain Carlyle, le plus important du monde, celui qui finançait la guerre en Irak, celui de Rumsfeld, Bush et autres. On a envahi leurs locaux parisiens, enfin leur petite branche parisienne. Là, on a eu la police immédiatement, surarmée, tout ça. Mais donc on devenait un peu embêtant. Mais finalement, comme ils ont fait ces erreurs-là, d'écraser notamment la jambe et tout ça, et le grand patron s'est enfui, hein, après, la police n'a pas voulu prendre la plainte. Pendant une semaine, on a fait le siège du commissariat pour qu'ils enregistrent la plainte. Alors qu'il y avait 40 témoins, on avait des images. Enfin, la police est venue ramasser le copain qui hurlait. Il a été envoyé à l'hôpital dans la nuit. Numéricable l'a fait évacuer de l'hôpital en pleine nuit, hurlant, renvoyé chez lui. Il a rappelé vraiment la lutte des classes. Quoi, bien. On a gagné, on a tout gagné. Il n'y a plus que le cas du copain avec sa jambe, ça, c'est pas fini l'histoire. Mais sur la grève, Numéricable a dû lâcher beaucoup d'argent parce que, à un moment, eux aussi, si nous, on ne fait pas d'erreur, on n'est jamais tombé dans la violence, on n'a rien cassé, on a juste tout le temps visé là où ça faisait mal et communiqué et mélangé, on a articulé grévistes et militants. Parce que le militant, il risque pas de perdre son boulot, alors que le gréviste, évidemment, peut être un peu plus sanctionné. Et bien, à un moment, ça devenait ingérable pour Numéricable, ils ont lâché. On a eu d'autres cas comme ça. Mais donc, cette violence, oui, elle existe. L'OTAN, il y a parfois, je vous ai dit, la transgression, là, on voyait des gens qui escaladaient un grillage. On est 2000 à attaquer, c'est le 1er avril prochain, si ça vous intéresse. 2000 à attaquer l'OTAN à Bruxelles, c'est super, c'est exaltant, et il y a maintenant un niveau de violence policière qui augmente progressivement. Donc il y a quelques blessés à chaque fois. À tel point qu'on avait même fait venir des psys militants pour gérer les copains qui auraient pris un traumatisme un peu fort. Mais c'est exceptionnel ce que je vous raconte là. Hein. C'est bon. Mais c'est...
Alors, nous, on fait des manifs comme ça de droite sur Rodez et je pense pas que Marie-Pierre viendra avec les arguments que tu as donnés, toi. Tu étais contre-productif, là.
Ah, mais j'ai vu.
Sinon, je voudrais savoir si une soirée comme ça motiverait des gens qui n'auraient jamais participé à ce genre de manif. On en a fait une il y a deux, trois mois pour le G20 et on avait un magnifique Warren Buffet, c'était notre ami Jean. Et on avait des flics extraordinaires. Celle qui veut monter pantalon des centres des hommes là. Une armée de clowns, de gendarmes, tout ça. Et ça a pas mal marché quand même.
Super.
Et j'aimerais savoir si une soirée comme ça nous motivera pour être plus nombreux la fois prochaine. Évidemment, il faut que lorsqu'on a fait ces manifs sur le G20, avant il y avait des soirées préparatoires pour savoir ce que c'était le G20. Et actuellement, on travaille pour la dette avec le CADTM et ATTAC. Et avant de faire, des manifs comme ça, on va faire des réunions préparatoires, et notamment, on en a fait une le dimanche lorsqu'il y avait la réunion à Paris, on a fait la même à Rodez, et je crois que mercredi, on va passer un film. Voilà. Et une fois qu'on aura appris ces trucs-là, on montrera aussi sûrement des actions, soit de droite, soit de...
Ouais, très bon film, d'ailleurs. Ah ouais, il faut le voir. Faut pas le voir,
j'aimerais savoir justement. J'aimerais vraiment savoir si ça déclenche quelque chose.
Oui, il était 60 à Villefranche. 60 ou 70
non, mais la soirée,
à la projection de Villefranche.
Bon, alors, il faut rattraper le coup parce que c'est vrai que tu fais une proposition juste après que je parle des trucs les plus glaçants de la lutte.
Tu es ruténois, toi, tu es plus cool. Non. Sinon, on aurait pu parler du contre G20 de Nice où effectivement il y avait des robots copes partout.
Ouais.
Et il y avait une confrontation effectivement de femmes qui tournaient en dérision cette force. Et c'était intéressant la déstabilisation qu'il y avait.
Ouais.
Bah ouais, c'était.
Ouais, il y avait des clowns à nous, et puis on a fait des trucs avec les têtes des maîtres du monde et tout. Non, il y a plein de... Globalement, on s'en sort très très bien. Encore une fois, ça s'apprend un petit peu, mais c'est du bon sens, c'est un état d'esprit. Faut pas, faut sortir évidemment de la haine que suscite parfois la souffrance quand on est en colère et qu'on a le responsable ou un des représentants des responsables. C'est tentant, et la personne parfois se comporte de manière odieuse. Donc, faut juste apprendre à maîtriser ces émotions négatives. Et si on est dans le jeu, et l'humour aide évidemment considérablement, les choses se passent très largement bien, parce que l'adversaire, il sait aussi qu'il n'a pas trop le droit à l'erreur. Nous, notamment, on a tout le temps pris des images. C'est pour ça que vous en voyez sur le diaporama. On prend en permanence des images, même innuméricables. C'est ça qui nous a permis de leur faire payer cher leur exaction. Mais c'est, la plupart du temps, ils savent qu'ils sont filmés. Et donc, ils se comportent de manière... plus responsable, quoi.
Je suppose que vous êtes au courant de ce qui s'est passé à Rome il y a 2 ans, à l'Opéra de Rome. On a une représentation du Nabucco de Verdi. Au moment du cœur des esclaves, le public a applaudi d'une telle façon que s'est établie une complicité entre le cœur, entre l'orchestre, entre le chef d'orchestre, au point que l'orchestre s'est arrêté, le maestro a interrompu l'orchestre, s'est adressé au public, et tous ensemble, le public et les artistes ont repris le chant du Nabucco, et c'était évidemment un pied de nez à Berlusconi. Quoi. Mm-hmm. Tout ça pour dire que, bon, vous avez parlé du rire, qui est, je crois que c'est effectivement le must, mais il y a aussi l'émotion pure qui peut arriver au même effet.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Enfin, je vais peut-être répondre en partie à ta question, par rapport à l'intérêt que ça peut susciter une soirée comme ça. Il y a une feuille là-bas pour des gens qui voudraient, qui seraient un peu titillés et qui seraient partants pour essayer de faire quelque chose. Vous pouvez vous inscrire. Et s'il y a quelque chose qui se fait sur Rodez, alors il y a possibilité de se réunir sur la salle du Guingois à Marcilla, ils sont d'accord pour nous accueillir, pour préparer. Après, à voir effectivement comment on peut s'organiser, s'il y a déjà un groupe, ce qui pourrait se faire.
Nous travaillons sur la dette depuis des mois et des mois.
Là, c'est sur la dette.
Pourquoi vous êtes sur Rodez, vous?
Ouais.
Ouais, ben Villefranche, on a monté un collectif aussi contre la
dette.
Oui, oui, ben bon, c'est le même truc. Pourquoi on n'arrive pas à se fusionner, enfin, à essayer de faire quelque chose commun, quoi. Vous travaillez de votre côté, nous, on travaille de notre côté.
On travaille ensemble simplement pour géographiquement faire connaître les gens qui ne pouvaient pas venir des Villefranches à Rodez, et les gens qui ne pouvaient pas aller des Rodez.
Oui, mais essayer d'avoir
des choses. Il faut qu'on l'entende de partout dans la France. Voilà. On va là où on nous appelle, hein, pour les retraites. On est allé à Villefranche, on est venu ici, on va partout où on peut. Hein, c'est pas... Là, il se trouve qu'à Villefranche, c'était déjà bien, et si vous avez fait le travail, il n'y avait rien sur Rodez, donc on complète, après on ira à Santa, après on ira là où on peut.
Oui, non, mais c'est pas la façon de l'aider, je ne pas après que les collectifs qui se mettent.
C'est comme il disait tout à l'heure, on ne va pas se chier sur une virgule sur le tract. Quoi.
Non, mais moi, c'est pas la virgule, je n'ai rien à péter, personnellement. Ce que je voudrais, moi, personnellement, c'est qu'on arrive quand même à se chanter ensemble, et puis voilà.
Prenez date pour la prochaine action, faites-la ensemble.
Par contre, par rapport au Guingois, pourquoi pas organiser une soirée, un week-end résistance, désobéissance par le rire. par exemple, ça serait total.
Nous, on peut venir vous former au clown activisme ou à la désobéissance.
Si vous voulez venir, vous êtes pas bien.
Ah ben, D'accord, alors justement, mes vacances de la semaine prochaine, je vais chercher un gîte. Pour nous faire venir, c'est tout simple, il faut trouver un lieu, donc ça peut être un lieu comme celui-ci, une ferme, un squat, une salle associative, une grande maison. Bref, un truc chauffé au cas où il ferait froid et il pleuvrait. Et puis, on s'entend sur une date. Généralement, c'est 2 jours le week-end, mais ça peut être 2 soirs en semaine, des stages plus intenses, ou une seule journée si vraiment vous ne pouvez pas. Et puis, ma foi, après, il y a 1 ou 2 formateurs qui viennent. Si c'est clown activisme, ils viennent généralement à 2. Et désobéissance tout seul. Et puis, vous faites de la pub en local, on fait de la pub sur nos listes. Il faut à peu près 15 personnes minimum pour que le stage ait lieu. On regarde une semaine avant combien de gens on a d'inscrits et tout. C'est à prix libre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème d'argent. Chacun paye ce qu'il peut, ce qu'il veut. On recommande aux gens qui estiment que leur revenu est décent, donc c'est à eux d'estimer et donc de donner ce qu'ils veulent. On leur recommande 50€ pour 2 jours, mais c'est juste une recommandation et chacun donne ce qu'il veut. Donc les gens qui n'ont pas d'argent donnent rien et puis ceux qui ont de l'argent donnent 50€, ça compense. Ça permet de payer les frais de transport des formateurs et s'il y a un surplus, les activités du collectif, les actions et les procès. Voilà.
50€ par personne.
50€ par personne.
Pour 2 jours.
Ouais, pour 2 jours. Non, mais pour ceux qui ne peuvent.
Pour l'intervenant, pour les stagiaires. Non,
oui. Pas l'intervenant, il paye pas. L'intervenant, il paye pas. Il paye de son temps.
Non, mais je voulais comprendre si c'était.
C'est le prix par personne.
Par personne, voilà. C'était pour l'intervenant.
Oui, c'est par personne. Voilà.
Non, c'est pas pour la... Dans vos stages, vous travaillez sur des bases précises de projets ou sur...
Alors, ça dépend. Si vous avez une base précise, si vous êtes sur une lutte, genre gaz de schiste, on a fait plein de stages, enfin plein 6 ou 7 stages sur la thématique gaz de schiste. On en a fait sur la thématique féminisme et on en refait bientôt en Belgique. On en a fait sur la thématique Palestine parce qu'il y a une grosse action de désobéissance internationale qui se prépare le 15 avril prochain. Voilà, c'est soit pas de thématique dans ce... mais de toute façon c'est les mêmes outils qui sont proposés, mais quand il y a une thématique on les adapte aux actions possibles. Bon, gaz de schiste, on va évidemment parler d'occupation de terrain, de blocage de bulldozer, c'est évident. Palestine, on va parler d'aéroport et de blocage de départ d'avion ou de résister à une arrestation quand on arrive à Tel Aviv par exemple, mais c'est en gros les mêmes outils. Et féminisme, eh ben, il va falloir y aller. Bon, le prochain, c'est en Belgique, c'est pas... Ah, il y a des gens qui viennent de loin.
Pour vous, ça fait plus près que de venir ici.
Pour moi, ça fait plus près, ouais. Mmh. Ouais. Mais beaucoup plus cher, parce que le Thalys...
Et dans votre vie perso, ça se passe comment? Vous vous
bien
sentez... J'étais pas allé au bout de ma question. Je parle pas de votre vie sexuelle, non. Je parle simplement de la manière dont ça se passe avec les pouvoirs publics. Est-ce que vous vous sentez fliqué? Est-ce que les RG sont là ce soir pour voir ce que vous dites?
S'ils sont là ce soir, c'est pas pour ce que je dis, c'est pour vous. Moi, ils savent. Mais non, je pense qu'ils ont juste relevé les plaques d'immatriculation, ça suffit. C'est difficile parce qu'il y a ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est déjà sympa. On a été très surveillés au début. On l'est encore ponctuellement, mais beaucoup moins, parce qu'ils savent à peu près à quoi s'en tenir. Mais au début, ça a été rodéo. Et... sur les stages, ils tournaient autour des stages en permanence, ils relevaient les plaques, ils regardaient de loin la jumelle, tout ça, même la nuit, il y avait des... Bon, il y a encore de temps en temps, sur la Bretagne, la semaine dernière, donc, il y avait des flics devant le lieu du stage, 48 heures, mais c'est quand même assez rare. La plupart du temps, ils nous fichent la paix. Mais quand on était... notre lutte initiale, c'était contre le M51, donc ce nouveau missile nucléaire français, qu'on n'a malheureusement pas réussi à empêcher, celui-là, mais on a fait quand même beaucoup de bazar, et ils ont mis le paquet, et du coup, là, on voit tout... Enfin, quand on parle du fait qu'ils sont obligés de faire de faire semblant d'être des démocrates, là on voit l'autre face quand ils font pas semblant. Donc on a été cambriolés. En présence du copain et de son enfant qui était à l'étage, cambriolage sans effraction, voiture vidée et fouillée, l'intérieur du domicile fouillé, et vol de clés USB d'agenda, et c'est tout, des services mystérieux. Et quand le copain est allé porter plainte à la gendarmerie le lendemain, et les gendarmes ont dit « Ah, monsieur X, vous avez plein de choses à nous raconter, je suis sûr. » Bon, bref. Mais on a eu aussi une caméra de l'armée camouflée sur un stage, et c'est drôle parce qu'il y avait un adjoint de la mairie qui faisait le stage, et quand des stagiaires ont trouvé cette caméra qui espionnait en permanence, il a appelé le maire, et le maire est venu furieux, il a pris la caméra, il est allé à la gendarmerie, il a dit « c'est quoi ça ? On m'a pas prévenu ». Les gendarmes étaient très embarrassés, ils ont dit « bah c'est pas nous ». Donc le maire a dit « je porte plainte et je veux que les propriétaires viennent chercher la caméra, je garde la caméra chez moi et qu'ils viennent la chercher ». Et les gendarmes ont dit « vous savez, dans ce genre d'affaires, il y a peu de chances qu'on les retrouve, en tout cas qu'ils viennent les chercher ». Bon, on a eu aussi un infiltré, un vrai, un type de la direction des renseignements militaires, donc les services secrets de l'armée, qui... un mec charmant, super sympa, de Toulouse, enfin, c'est ce qu'il disait, avec un accent charmant, hein, quand on est du Nord, évidemment, on aime, il a fait le stage, après il a dit, j'ai envie de m'engager avec les désobéissants, donc nous on dit oui à tout le monde, hein, parce qu'on a besoin de nous, puis il était sympa, et puis il a fait les actions contre le M51 avec nous, donc il est rentré sur le terrain militaire de Biscarros, le centre d'essai de lancement de missiles de Biscarros, il s'est fait arrêter donc par ses collègues, mais on savait pas. Et puis on a reçu une lettre un jour avec sa vraie identité, une photo de lui en uniforme, son rôle exact, etc. Lettre anonyme. Alors sur le coup on s'est dit bon attention, ça peut être de l'intox, tout ça. Bon, on va vérifier. Et puis on était incapable de vérifier parce que nous on n'a pas de service secret. Mais on a eu du bol. On l'a aperçu avec quelqu'un que un des formateurs connaissait. Du coup il a appelé le tiers en question et au tiers il a dit ah on t'a vu avec Laurent. Bon, Laurent c'était le nom qu'il nous avait donné, mais c'est son nom bidon. Est-ce que tu sais ce qu'il fait? Il a dit oui, un truc pour l'armée, il veut pas trop en parler. Un truc un peu secret. Bon, c'était ça. Donc, après, bon, il a essayé de rester quand même parmi nous, mais en vain. Donc, ça, c'était bon, voilà. Bon, il a fait 4 mois avec nous, quand même. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Alors, parfois, sur des stages pendant pour le blocage de l'OTAN, quand il y a eu le sommet de l'OTAN en avril 2009, c'était rigolo. On avait fait donc un alter-village pendant une semaine. On était 5000 sur le village. Moi, je faisais des petits ateliers de désobéissance pour préparer le blocage de la zone rouge, qu'on a réussi à bloquer d'ailleurs pendant de longues heures. On était survolés par des hélicoptères de la police qui nous filmaient. Et à plusieurs reprises, l'hélicoptère venait juste au-dessus de l'atelier qui était dehors, hein, et descendait suffisamment pour qu'avec le bruit des pales, on puisse plus m'entendre parler. Juste ça, juste pour le plaisir de ficher en l'air l'atelier. Bon. C'est avec notre argent, hein, tout ça, hein, mais ça coûte horriblement cher, hein, l'heure d'hélicoptère, mais bon. Une autre fois aussi, on était suivi en hélicoptère dans la rue. C'est discret. Bon, ben, ça fait comme dans les films. Bon, voilà, enfin, genre de truc, mais... C'est rigolo, hein, en fait. Ça vous fait rire et ça nous fait rire aussi, hein, parce que... Enfin, c'est tragique, mais c'est sérieux quelque part, mais c'est pas encore la France-Afrique. Si on était africain en Afrique, ils nous auraient tués. Là, ils sont obligés de faire semblant, donc ils nous arrêtent, ils nous libèrent, ils nous gèrent. Ils nous gèrent. Et pour l'instant, on n'est pas encore suffisamment embêtant pour qu'ils soient obligés de faire plus. Donc on y travaille, mais... Tant qu'ils nous digèrent pas, non. Non, non, non. Non, non. On n'ira pas sur une liste électorale.
En parlant d'élections,
ouais.
En ces temps de campagne électorale, il y a des choses intéressantes de prévues?
Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Il y a sur Sur la Palestine, ça va être un beau bazar en plein juste avant l'élection, puisqu'on va être 2000 à partir, et vous, avec vous si vous avez envie, c'est tout simple. Il suffit de prendre son billet. On peut vous aider à payer votre billet ou à avoir des déductions fiscales pour vous acheter le billet. On sait aussi, on a aussi nos paradis fiscaux. Je plaisante à peine. Donc on est au moins 2000 là pour l'instant à avoir acheté un billet au départ le 15 avril de plein d'aéroports européens. Il y a aussi des Américains, des Canadiens en plus, on ne sait pas combien ils sont. Et nous allons tous arriver le même jour à Tel Aviv, puisque pour aller en Palestine occupée, il faut passer par Israël, il n'y a pas le choix. Et nous allons faire ce qui ne se fait pas, dire que nous voulons aller en Palestine tout simplement et que le droit international impose à Israël de nous ouvrir la porte. Mais Israël n'applique pas le droit international, il s'en fiche comme l'an 40. Et donc, il va nous mettre en prison. Si c'est ce qu'ils ont fait le 8 juillet quand on était 600, et seulement 120 sont arrivés là-bas parce qu'on a fait une bêtise, ils ont réussi à avoir les noms des gens et à obliger les compagnies aériennes à nous débarquer. Cette fois, on ne fera pas la même bêtise, donc on va bien arriver à 2000 à Tel Aviv. Et là, comment ils vont nous gérer, je ne sais pas. Ça va être un beau bazar. Est-ce qu'ils vont tous nous mettre en prison? Est-ce qu'ils vont devoir ouvrir la frontière pour la première fois avec la Cisjordanie? Il y a des Israéliens qui viennent nous accueillir et nous saluer, d'autres qui viennent nous insulter. Donc la dernière fois, ils se sont battus entre eux à l'aéroport. La presse israélienne a dit « Sommes-nous devenus fous? Pourquoi nous arrêtons ces gens qui sont pacifiques, qui ont juste pris leur billet pour aller en Palestine ?» Bon. Et ben voilà, on peut compter sur le gouvernement d'extrême droite d'Israël pour faire des bêtises et du coup nous donner de l'importance. Et ça, ce sera juste avant les élections, donc il y aura plein de Français retenus en otage, enfin non, mais on les jouera comme ça, emprisonnés peut-être dans le Negev en Israël. Comment feront nos candidats à la présidence? Bon, ça peut être amusant. Mais il y aura d'autres actions dans le genre, mais sur d'autres causes.
Pourrait que la foule elle arrive jusqu'à nous, hein, parce que pour
l'instant... Ah ben là, elle arrivera.
Pour l'instant, toutes ces infos, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas tellement entendu parler de tout ça. Alors, je ne dis pas que vous ne le faites pas, mais c'est juste que c'est dommage qu'il n'y a plus de...
On fait ce qu'on peut, hein. C'est pas nous qui contrôlons les médias, c'est nos adversaires. Bah, on emmène des caméras, il y a même des journalistes avec nous dans les avions. Mais il y a des choses qui sont... En fait, on est rarement censuré. On l'a été sur le Rwanda, le truc Mitterrand, là, ça a été quand même clairement de la censure. Deux, trois fois, on a été censuré. Souvent, on n'a surtout pas l'importance que l'on mériterait, même si, au risque de paraître immodeste, mais les tirs de missiles M51, c'est des tests qui coûtent 15 milliards d'euros. On teste une fusée spatiale, ça se passe à Bordeaux. Personne n'entend jamais parler parce que l'armée ne communique pas là-dessus. Nous, on a mis en déroute pendant trois jours de suite, c'était notre principal succès, un des tirs. On a perturbé tous les tirs, on a occupé des radars, on a bloqué pas mal de choses. À chaque fois, régionalement, ça a été très médiatisé, dans le sud-ouest, tout ça. Sauf que nationalement, on n'a rien eu. Et là, il y avait une censure parce que des gens qui risquent la prison, qui dament le pion à des centaines de policiers, de militaires, la DST qui était sur nous. Oui, je vous ai raconté l'histoire de la DST, c'est drôle. Ils étaient en un couple sympa, bronzé. On est dans les Landes, hein, là. On est dans les Landes en juin 2007. On est 30. En gros, à essayer d'empêcher le tir d'essai du missile M51 qui part dans l'espace, qui retombe au large de la Guyane. Donc on a plein de ruses parce que la DST s'est installée juste en face de la maison où on habite. Donc il y a des gendarmes qui sont dans la rue, ils savent ce qu'on veut faire, on l'a annoncé partout et ils ne nous lâchent pas d'une seconde. On est écouté aussi par des casques, ça s'appelle des canons à son, un petit canon. Ça vous sert, si vous allez à Nature et Découverte, à écouter les oiseaux à 500 mètres. Ben ça aussi, ça écoute aussi les conversations quand c'est un peu plus puissant à travers les murs. Donc ils font tout ça. Voilà. Pour 30 gugus, hein, amateurs, qui ont envie de les embêter sur le tir. Et à un moment, donc, on fait semblant de se quitter, donc on emmène une partie des copains à la gare la plus proche, avec leur sac à dos, on se fait des grands au revoir, genre ils s'en vont, c'est fini, on a raté notre coup, tout ça. la police nous suit, bon, et on arrive à la gare. L'idée, c'est bien sûr de les faire partir et puis descendre à deux gares plus loin, récupérer par d'autres copains. Bon, c'est des ruses à deux balles, hein, mais on n'a que ça, nous. Hein. Bon, on n'est pas des pros, hein. Mais enfin, ça marche, hein. On a réussi quand même à les avoir pas mal. Et là, il y a un couple qui nous suit, enfin, il y a une voiture qui nous suit. Moi, je suis une des dernières voitures, donc je repère que c'est la police. J'arrive à la gare, les premiers copains sont déjà arrivés, et manque de bol, c'est dire à quel point on est des pieds nickelés, on a loupé le train. Donc, et là, il y a un couple sympa, bronzé, chemise Hawaï, jeune, bon, qui... on avait des nouveaux militants un peu tous les jours, on lançait des appels, donc on ne se connaissait pas tous. Je leur claque la bise, tout ça, et je dis aux autres copains que je connaissais, vous avez vu, il y a la police qui nous suit, tout ça. Et là, les gens à qui je viens de faire la bise, ils me disent, ah oui, bah, c'est nous, DST. D'accord. Ah. Je recompte mes doigts au cas où. Bon voilà, bon c'est rigolo, mais pff, voilà, ils nous ont pas tués. Bon, je sais plus pourquoi je racontais ça, mais
c'est pour dire qu'on est fiché.
Oui, bah on est aussi fiché, mais c'est pas grave. Nous, on est dans la désobéissance civile. On ne fait que des choses qu'on peut assumer. Donc, on n'a pas à se cacher. On se cache un minimum pour avoir de l'avance sur la police. Et puis, une fois que l'action commence, il faut que la police arrive. Parfois, c'est elle qui nous protège. Enfin, les faucheurs volontaires en ont fait l'expérience à plusieurs reprises. En face, les autres, ils viennent parfois armés. Donc, enfin, je ne veux pas casser non plus encore la glace.
Et ils sont méchants.
Et ils sont méchants, oui, oui. À Verdun-sur-Garonne, ils étaient... Bon. Mais il arrive que ce... Enfin, bon, voilà. Globalement, ça se passe très bien. Et on les embête. Et on n'est pas encore assez nombreux pour avoir des victoires substantielles. On a, nous, régulièrement des victoires. Mais locales, régionales, régionales, on a fait sur les handicapés, on a fait des super actions avec des gens en fauteuil, des gens paralysés totalement, dont les droits sont piétinés. Hein, ils restent enfermés chez eux, il n'y a pas les transports adaptés qui ont été promis, qui ont été budgétés, et puis voilà, qui ont été transformés en petits fours. Et ben là, on a bloqué des conseils généraux, on a perturbé les trucs, on a saboté une inauguration de gare, ça c'était super drôle. Ah oui, j'aurais pu la mettre celle-là. Ça c'est drôle. Vous avez le président du conseil général de Val d'Oise et le président du conseil régional, Huchon, Île-de-France, qui inaugure une nouvelle gare de train régional qui est 100% accessible aux handicapés. Il y a une plaque et nous on arrive avec nos militants en fauteuil et tout. Et. Au moment où toute la presse, enfin régionale surtout, c'est pas l'événement du siècle, filme le voile qui tombe de la plaque, bon, bref, l'inauguration, nos copains, ils sautent de leur fauteuil, ils rampent, comme ça, avec les jambes qui font ça, c'est un peu spectaculaire. Ils arrivent au pied des élus qui disent « Non, vous foutez notre gueule, elle n'est pas accessible. » Elle n'est pas accessible d'abord parce qu'il n'y a pas de transport adapté pour s'y rendre, donc c'est super, elle est belle, mais on ne peut pas y aller en fauteuil, donc bon. Et puis deuxièmement, ils foutent vraiment du monde. Il y a un super ascenseur qui est large pour les fauteuils. Donc vous pouvez aller jusqu'à la plateforme du train, mais le train n'est pas au niveau de la plateforme. Donc vous ne pouvez pas monter dans le train. Donc vous pouvez regarder partir le train. Bon, alors, là, une semaine plus tard, on avait le transport adapté. 6 mois plus tard, il était public. Au début, ils ont payé des privés. Puis voilà, là, on a libéré une situation qui était catastrophique pour des humains, quoi. Ça traînait depuis des années, hein. C'était bloqué total, PS et droite, ils faisaient la même politique, rien. Ils faisaient des commissions, tous les mois, commissions. Alors, ils recevaient tous les représentants de tous les handicapés. Ils nous ont dit, hein, j'ai moi-même un excellent ami handicapé. D'accord. Enfin voilà, tous ces... Oui, voilà, mais donc, bon, mais...
Voilà. Vous avez été aussi sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ?
Oui, bien sûr, oui, on l'a. Oui, c'était, ouais, ça c'était aussi drôle. Bon, allez. là, on a voulu faire. Donc, c'était le camp Action Climat, au moins. Enfin, on a fait au moins cette action-là. Camp Action Climat, donc c'est un camp alternatif, un village alternatif, temporaire, qui est à la fois un lieu de vie, donc, comme je vous l'ai dit, où on développe des alternatives concrètes, et en même temps un lieu où l'on prépare des actions. En l'occurrence, contre la construction de ce deuxième aéroport, inutile, coûteux et désastreux sur le plan environnemental, à Notre-Dame-des-Landes, à côté de Nantes. Et là, l'idée, c'était de transporter le camp Action Climat dans l'aéroport existant, celui de Nantes. Et en l'occurrence, c'était moi qui devais déclencher l'action en prenant le micro. C'est super, les micros pour faire les annonces dans tout l'aéroport. Ça, c'est super jouissif de parler au micro devant tout le monde. Donc, alors, on a fait une petite ruse avec un autre copain. Lui, il a prétendu qu'il avait perdu son petit frère. Donc, il est venu demander une annonce. Donc, une annonce a été faite pour retrouver le petit frère. Et puis, donc, il attend un quart d'heure, machin. Mais là, les gens du comptoir avec le micro l'ont connu, le reconnaissent maintenant. Il revient aux nouvelles. Et là, je suis juste derrière. Et au lieu de venir directement au micro, il passe par derrière, il rentre dans le local. Et sur le coup, comme ils le connaissent, ils ne s'inquiètent pas. Et donc, il arrive au micro et moi, juste derrière, et hop, je prends le micro. Et lui fait tampon. Et je commence à remercier l'aéroport de me laisser parler. Parce qu'évidemment, j'ai jamais demandé d'autorisation, ils ne m'en auraient jamais donné. Mais au moins de dire ça, ça fige un peu les policiers et les agents qui se disent... Ça se trouve, c'est vrai. Bon. Donc, je pars, je remercie, et puis je dis, écoutez, je suis un passager, je viens juste de réaliser que l'avion était un désastre environnemental, blablabla, qu'il faut absolument repenser notre truc, et en plus, ils veulent faire un deuxième aéroport, etc., etc. Et en fait, bien sûr, au bout de quelques minutes, les vigiles, tout ça, me tombent dessus. Le copain fait tampon, mais ça résiste ce que ça résiste. Et en fait, l'idée, c'est que ça déclenche la mise en place du camp Action Climat. Donc il y a des gens qui rentrent par la porte de l'aéroport et qui mettent des bottes de foin et font un camping, des clowns qui se mettent à faire des trucs, la Vélorussion qui arrive avec ses vélos, des banderoles, de la fête, on envahit les trucs, bon bref, c'est la fête dans l'aéroport. Et aucune conséquence, hein, c'est pas... Bon, mais on n'a pas empêché les avions de décoller. Ça, on l'a fait pour la Palestine en juillet dernier. On avait bloqué l'aéroport de Genève pendant 2 heures et notre vol pendant 7 heures, puisqu'ils nous avaient débarqué sur ordre d'Israël. Donc on était un peu frustrés, un peu amers. Donc on voulait faire comprendre et obtenir le remboursement des billets, parce qu'ils ne voulaient pas nous rembourser en plus. Enfin bon, et on a été remboursés. Il n'y avait plus un seul avion qui décollait il y a un moment... Enfin voilà. On est un peu taquin, mais c'est ça qui est bon.
Est-ce que vous avez eu assez de taquinerie?
Ça fait envie, hein.
Mais vraiment, c'est à la portée de tout le monde, hein. Faut pas croire. Là, je fais peut-être extraterrestre, mais je peux vous dire que vous commencez à mettre un pied là-dedans, vous commencez gentiment et vous allez y prendre du plaisir, ça va vous rassurer. Vous allez voir que ce que je dis est vrai, que la plupart du temps, ça va bien. Et vous allez aussi avoir le plaisir de commencer à changer modestement les choses. Pas juste dire non, dire je suis contre, mais en plus exercer un vrai pouvoir. Parce qu'en définitive, c'est nous le pouvoir, c'est le nombre et la légitimité. Mais à condition qu'on l'exerce.
C'est les 99%.
C'est les 99%, absolument.
Donc laissez votre adresse mail sur la petite liste à la sortie. On vous contacte pour la prochaine action.
Voilà. Et le site des désobéissants, c'est désobéir.net. Désobéir.net, si vous oubliez, vous tapez les désobéissants ou mon nom. Et puis sur les livres, il y a aussi l'adresse du site. Il y a la liste de plein des actions dont j'ai parlé, un peu plus amplement décrit. Voilà, il n'y a plus qu'à.
Merci.
Merci. Merci. Merci. Merci.